Apocalypse chapitre 3 versets 18 et 19. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche et des vêtements blancs pour être vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et te repens. Donc, frères et sœurs, je vous souhaite encore une fois un bon sabbat. Pour ceux qui le terminent ou pour ceux qui le commencent, peu importe. J'espère que cette méditation, vous la trouverez comme réellement une partie de la bénédiction du sabbat, mais également comme un aspect et un enseignement qui devrait et qui pourra avoir une influence sur notre vie quotidienne, c'est-à-dire de tous les jours. Donc, comme à mon engagement, je vous avais dit le sabbat dernier que nous poursuivrions notre méditation sur la justice par la foi, mais cette fois-ci en nous dirigeant et en nous orientant vers un autre aspect de la justice par la foi. Nous nous sommes attardés en longueur la dernière fois sur, vous vous rappellerez, la question des réflexions sur la justice par la foi et sur notre caractère, c'est-à-dire le lien entre nos pensées, nos actions et nos habitudes avec l'activité de la justice par la foi. Nous avons réfléchi à notre condition en tant que pécheurs, nous avons réfléchi à la condition et à la nature de Dieu en tant que celui qui est juste et qui est la justice même, qui est l'amour même, Dieu est amour. Et nous avons réfléchi à tout ce processus de la justice par la foi, de la justice par la foi, qui comporte la justification, mais également qui implique toute cette œuvre que nous appelons la sanctification, et que d'ailleurs c'est un mot que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Nous sommes concentrés sur le salut par la foi, le salut par la grâce de Dieu, sans les œuvres de la loi. Nous avons abondamment exploré tout ceci et maintenant, aujourd'hui, et nous avions terminé par cette fameuse parabole sur le vêtement de noces. Vous vous rappellerez dans Matthieu chapitre 22, versets 1 à 2 et surtout versets 11 à 14. Donc ça, c'était juste pour un rappel afin que maintenant nous puissions, par la grâce de Dieu, faire le pont de cette méditation précédente et celle d'aujourd'hui. Donc nous faisons le pont avec l'étude précédente en abordant désormais, dans sa continuité, le sujet du vêtement de noces. Et donc, vous vous rappellerez que nous avions vu que ce vêtement de noces représente et représentait le caractère et plus précisément la justice de Christ. Nous allons y revenir. Et la question que j'aimerais vous poser et que sur laquelle nous voulons nous pencher, c'est: existe-t-il une exhortation directe dans la parole de Dieu à porter ce vêtement-là, c'est-à-dire à porter ce vêtement de noces, que la parabole du vêtement de noces et du mariage de cet homme riche était censée, ce à quoi elle était censée faire référence. Eh bien, en effet, nous avons une telle exhortation dans ce passage de notre lecture biblique, à savoir Apocalypse chapitre 3, versets 18 et 19. Donc tout cela, c'est dans le contexte des paroles et de ce message de Jésus, le témoin fidèle et véritable, à l'ange de l'église de Laodicée. Il lui déclare que celui-ci, ainsi que ses auditeurs, n'est ni froid ni bouillant, à savoir tiède. Et c'est pour cela, parce qu'il est tiède, il lui annonce que Jésus, le vomira de sa bouche. Toutefois, quoi qu'il lui annonce cela et qu'il lui dise sa condition, qu'il lui dise qu'il pense être riche, mais qu'en réalité, il est malheureux, misérable, aveugle, pauvre et nu, eh bien, Jésus donne tout de même une solution au verset 18 et 19. Et cette solution, elle est ainsi exprimée par Jésus-Christ, le témoin fidèle véritable, à Laodicée. En ces termes, il dit: « Je te conseille. » Nous lisons Apocalypse chapitre 3, verset 18. « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche, et des vêtements blancs pour être vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. » Verset 19, « Je reprends et je châtie tout ce que j'aime, aie donc du zèle et te repens. » Voyez un peu, ne serait-ce que dans ces quelques versets, l'esprit et la pensée et la mentalité et l'attitude de Dieu nous est ici démontré, en ce que il clarifie que il ne nous reprend et ne nous châtie que parce qu'il nous aime. À savoir que si vous lisez un autre passage, je crois que c'est Hébreux chapitre 12, oui, probablement, à partir du verset 5 et 6 et suivant, vous avez cette exhortation et cet encouragement où nous apprenons que Dieu ne châtie que ceux qu'il aime, que ceux qui sont et qu'il considère comme ses enfants, parce que les bâtards n'ont pas droit à une telle discipline. Donc c'est un peu une des manières dont Dieu nous encourage, mais tel n'est pas toutefois l'objet de notre méditation maintenant. Nous voulons voir les implications, premièrement spirituel et ensuite plus pratique, de ces paroles de Jésus où il dit: je te conseille, vous avez noté, d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche, des vêtements blancs pour être vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. De toute évidence, ce langage ici est tout à fait symbolique parce que Dieu ne nous demande pas, n'est pas en train ici de nous parler d'un produit pour les yeux, ni même n'est en train de nous exhorter à acheter de lui de l'or physique, un métal précieux. Il ne s'agit pas de cela. Toutefois, il s'agit des choses qui sont signifiées par ces symboles, à savoir l'esprit de prophétie nous indique que l'or, c'est la foi et l'amour. Hein, et si vous vous rappellerez de ces paroles de la Galate chapitre 5, nous sommes appelés à avoir une foi qui agit par l'amour. Donc la foi et l'amour, c'est ce que Jésus nous appelle à acheter de lui. Vous vous rappellerez des paroles d'Apocalypse chapitre 14, verset 12, qui nous disent: c'est ici le commandement de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Eh bien, cette foi de Jésus que ce peuple vainqueur a à la fin et auquel Jean le Révélateur rend témoignage, c'est la foi que Jésus invite préalablement son peuple à acheter et à trouver auprès de lui. Hein? Je conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, toutefois pas simplement de l'or, mais des vêtements blancs. Donc de la même manière que l'or est symbolique, le vêtement blanc aussi est symbolique. Nous allons y revenir. Et bien entendu, aussi le collier est symbolique. Hein, si vous faites la recherche, ce collier est un symbole et représente et est là pour exprimer le discernement spirituel. Quelque chose pour voir. C'est-à-dire que c'est comme si nous avions une maladie au niveau des yeux et ce que Jésus nous propose, cela va remédier à notre maladie, un collier pour que nous puissions voir, alors qu'en réalité nous sommes, comme Jésus le disait au verset 17, aveugles. D'une part pauvres, d'autre part aveugle ou d'autre part nu. Ou si vous voulez le mettre dans l'ordre qui est en harmonie avec sa solution, ce serait pauvre, nu et aveugle. Et pour ces trois problèmes, Jésus nous propose une solution au verset 18. Donc, tout cela pour dire que, à la fois, tant le problème que la solution sont d'ordre spirituel. On est d'accord. Il s'agit de problèmes spirituels, moraux, pour lesquels Jésus propose des solutions spirituelles, morales. Et on veut se tourner vers les paroles de la citation de parabole de Jésus. Cette citation, nous avions commencé à la lire la dernière fois et maintenant nous voulons la poursuivre. Et d'ailleurs, elle permettra elle sera très proche et elle nous permettra d'élargir le sujet sur lequel nous nous attardons maintenant. Je lis dans Parabole de Jésus à la page 270, paragraphe 2, jusqu'à la page 271, paragraphe 3. Il est écrit ceci. Donc, en lien avec et par rapport à cette parabole de Matthieu chapitre 22, que nous avions lu la dernière fois, je n'y reviens pas. L'habit de noces de la parabole représente le caractère pur et sans tache que posséderont les vrais disciples de Christ. Quel est cet habit? Et donc, de manière parallèle, quels sont ces vêtements blancs que Jésus nous propose d'acheter de lui? L'habit de noces de la parabole représente le caractère pur et sans tache que posséderont les vrais disciples de Christ. Il a été donné à l'Église de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Le fin lin, disent les Écritures, ce sont les justices des saints. Elle cite Apocalypse, chapitre 19, verset 8. C'est la justice de Christ, son caractère irréprochable, qui est communiqué par la foi à tous ceux qui reçoivent comme leur sauveur personnel, à tous ceux qui le reçoivent comme leur sauveur personnel. Et nous avions exploré plus en détail ce que cela voulait dire de recevoir Jésus comme notre sauveur personnel et d'avoir des œuvres qui sont le résultat de cette foi qui vient de Dieu. Nous avions exploré cela dans la théorie et il me semble aussi dans la pratique. Je poursuis. Et là maintenant, elle continue en élargissant sur ce sujet de l'habit de noces. Et j'aimerais vous inviter à être attentif parce que ça va être l'objet de notre méditation. Il est écrit « La robe blanche de l'innocence était celle que portaient nos premiers parents quand ils furent placés par Dieu dans le jardin d'Éden. » Qu'est-ce qu'elle dit? Donc au début, il s'agit des habits de noces, mais maintenant un élément supplémentaire est ajouté qui vous permet de voir qu'il s'agit bel et bien de ces mêmes vêtements blancs dont Jésus parle dans Apocalypse chapitre 3 verset 18, parce qu'elle dit « La robe blanche de l'innocence était celle que portaient nos premiers parents quand ils furent placés par Dieu dans le jardin d'Éden. » Je poursuis. Ils vivaient alors en harmonie parfaite avec sa volonté et toutes leurs affections se tournaient vers leur Père céleste. Une belle et douce lumière, la lumière de Dieu, enveloppait le couple saint. Cette robe de lumière était un symbole des vêtements spirituels de leur céleste innocence. S'ils étaient demeurés fidèles à Dieu, elle ne les aurait jamais quittés. Mais le péché les sépara de l'Éternel et la lumière qui les entourait s'évanouit. Nus et honteux, ils essayèrent de remplacer leurs vêtements célestes par des feuilles de figuier qu'ils cousirent ensemble. C'est ce que tous les transgresseurs de la loi divine ont fait depuis le jour de la désobéissance de nos premiers parents. Ils ont utilisé eux aussi des feuilles de figuier pour cacher la nudité résultant de leur transgression. Ils ont mis des habits de leurs inventions. Ils se sont efforcés de dissimuler leurs péchés sous leurs propres œuvres et de se rendre acceptables aux yeux de Dieu. Mais ce travail est vain. Rien ne pourra jamais remplacer la robe d'innocence qu'ils ont perdue. Ceux qui seront assis avec Christ et ses anges au festin de noces de l'agneau ne seront pas revêtus de feuilles de figuier ni d'habits de ce monde. Seuls les vêtements qui ont été préparés par Jésus lui-même nous permettront de nous présenter en la présence de Dieu. Christ enveloppera de sa robe de justice tous ceux qui se repentent et qui croient. Je te conseille, dit-il, d'acheter de moi des vêtements blancs pour être vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Ensuite, elle continue, ça continue, ça parle de cette fameuse robe et de ce dont elle est constituée, tissée sur les métiers du ciel. Cette robe n'a pas un seul fil de la sagesse d'ici-bas, etc. Et peut-être que je le lirai plus tard, mais là, ça nous permet d'introduire notre méditation et nous voyons d'ores et déjà, vous voyez le parallèle qui est tracé et fait ici entre l'habit de noces de cette parabole qui est bien entendu symbolique, et la robe blanche de l'innocence que portaient nos premiers parents. Nous allons pouvoir élargir tout cela à travers d'ailleurs la parole de Dieu. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite, parce que ici vous voyez que, donc on voit ces vêtements de noces, cette robe de la justice de Christ, et cette direction que l'esprit de prophétie nous donne en nous parlant de la robe d'innocence. Et donc, frères et sœurs, à la lumière de ce que nous sommes en train ici de lire, de toutes ces révélations au sujet de la robe de la justice de Christ, symbolisée par les vêtements de noces et également par la robe d'innocence de nos premiers parents, est-ce que cela nous introduit et nous met en lien, en rapport avec une réalité élargie des manifestations actives de la justice par la foi? Est-ce uniquement quelque chose d'interne ou est-ce également quelque chose qui aura un reflet à l'extérieur? Parce que vous vous rappellerez les paroles inspirées de Jacques au sujet d'une foi sans œuvre, c'est-à-dire une foi qui ne se voit pas. Et nous avions vu, nous avions conclu à travers notre lecture honnête et simple de la parole de Dieu la dernière fois que la vraie foi, la foi qui est d'origine divine, la foi de Jésus qui plus est, cette foi-là agit par l'amour. Elle agit par l'amour, toutefois elle agit tout de même. C'est-à-dire que l'amour de Dieu ne nous est pas donné comme un calmant, mais comme un stimulant pour la foi. L'amour de Dieu est pour ainsi dire le carburant de la foi qui nous est transmise. Cette confiance en la parole de Dieu. Mais alors, est-ce que la Bible nous donne des indices sur les reflets concrets de cette foi qui agit par l'amour de Dieu? Quelle nous donne-t-elle, la Bible nous donne-t-elle des indices sur des reflets concrets, c'est-à-dire tangibles, visibles, de cette foi-là? Tournez-vous avec moi vers les paroles de Genèse chapitre 2, premièrement verset 25. Et donc, revenons en arrière et cherchons dans la parole, la Bible, à lire par nos propres yeux ce vers quoi l'esprit de prophétie était en train d'attirer notre attention dans la citation que j'étais en train de parcourir précédemment. Dans Genèse chapitre 2, verset 25, vous voyez avec moi, donc le récit biblique nous donne la condition de nos premiers parents ainsi que les circonstances de leur création. Vous avez la première création au chapitre 1. Certains détails supplémentaires nous sont donnés au chapitre 2. Et parmi ces détails, nous lisons que Adam, verset 25, et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Et il me semble que j'avais déjà fait à plusieurs reprises une explication et une étude à ce sujet. Toutefois, nous allons nous satisfaire pour le moment des paroles que nous venons de lire pour nous qui sommes adventistes du septième jour et qui, en principe, devons et devrions avoir une foi implicite dans les écrits et les témoignages de Jésus que nous disait justement le Seigneur dans cette citation précédente qui se trouve dans Parabole de Jésus, page 270, paragraphe 3. Voilà ce qui était écrit, ou plutôt paragraphe 2 d'abord. Non, oui, paragraphe 3, excusez-moi. La robe blanche de l'innocence était celle que portaient nos premiers parents quand ils furent placés par Dieu dans le jardin d'Éden. Une belle et douce lumière enveloppait le couple saint. Et donc, lorsque la Bible nous dit qu'ils étaient nus mais qu'ils n'en avaient point honte, pourquoi n'avaient-ils pas honte de leur nudité? Parce que leur nudité était couverte. Voilà un principe fondamental qui fait défaut à la gigantesque majorité des chrétiens aujourd'hui, y compris les adventistes du septième jour, et qui contribue à leur ignorance du sujet de la justice par la foi. Entendez-moi bien, la question n'est même pas de l'acte d'essence, premièrement. La question est de notre connaissance, notre compréhension ou bien de notre ignorance du sujet de la justice par la foi qui est directement sourcé dans notre mécompréhension de ces quelques brèves paroles de Genèse chapitre 2, verset 25. À savoir, nous lisons. Et à juste titre, parce que si nous étudions la Bible, nous pourrions parvenir à la même conclusion, à savoir que la raison pour laquelle Adam et sa femme Ève étaient nus et n'en avaient point honte, ce n'est pas parce que ils pensaient différemment sur la nudité ou que les principes ont changé après le péché, mais c'est parce qu'ils étaient nus, mais que leur nudité était couverte. C'est une chose qui échappe à une grande majorité des soi-disant chrétiens aujourd'hui. Et les répercussions de cette croyance, cette compréhension ou de cette ignorance sur le sujet sont gigantesques. Gigantesques, pas uniquement dans l'accoutrement des croyants, mais dans leur approche et leur conception de la justice de Dieu et par conséquent de l'activité de la justice par la foi. Réfléchissez avec moi ici davantage. Nous poursuivons cette méditation dans le passage de Genèse chapitre 3, versets 6 à 10. Donc, par la suite, vous connaissez l'histoire, Ève fut tentée. Ensuite, au verset 6, après que le serpent lui ait parlé en longueur et l'ait convaincue, malgré elle, peut-être, mais toutefois avec son consentement, nous lisons que verset 6, la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vue et que l'arbre était désirable pour devenir intelligent. Et elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari auprès d'elle et il en mangea. Donc elle tenta également Adam et nous connaissons tous les détails de cela dans l'esprit des prophéties, comment Adam céda parce qu'il avait peur de perdre sa femme. Et ce n'est pas le sujet. Verset 7, les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des ceintures. Je continue, après nous allons y revenir. Verset 8, et ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au vent du jour, et Adam et sa femme se cachèrent de devant la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela Adam et lui dit, où es-tu? Et Adam répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai craint parce que je suis nu et je me suis caché. Donc, de toute évidence, les feuilles de figuier n'avaient pas trop aidé la question de la nudité. Hein? Vous le voyez parce que Adam se sentait encore nu malgré ils avaient déployé tant d'efforts pour se coudre des ceintures avec des feuilles de figuier. Et ceci n'est pas, cette réflexion-là n'est pas anodine, loin de là. Loin de là. Verset 6, donc vous avez vu qu'elle pécha, ils péchèrent. Verset 7, nous lisons que les yeux de tous deux s'ouvrirent. Mais alors, comment ils s'ouvrirent et quel est le sens que nous devrions ajouter à ces paroles lorsque nous comprenons, eh bien, il nous est donné par l'esprit de prophétie parce que nous ne sommes vraisemblablement pas assez intelligents pour le déduire de la parole de Dieu aujourd'hui, quoique peut-être il y a quelques siècles nous l'aurions été. Toutefois, nous ne le sommes plus si jamais ce fut le cas. Nous apprenons que ce que cela veut dire, c'est que le péché les sépara de Dieu, ou littéralement en anglais, par le péché, ils brisèrent leur lien avec Dieu, et la lumière qui les entourait s'évanouit. Donc qu'est-ce qui s'évanouit? Cette robe blanche de l'innocence qui enveloppait le couple saint. Je suis en train de faire des déductions en lisant cette citation de Parabole de Jésus, page 270, paragraphe 3. Je ne suis pas en train de sortir ces choses de ma tête. Et donc, c'est alors que nous pouvons lire à leur sujet que nus et honteux, ils essayèrent de remplacer leurs vêtements célestes. Nus et honteux. Donc la nudité est directement liée à la honte, et ce, dès la chute de nos premiers parents. Et parce que ils perdirent cette robe de lumière dont ils étaient enveloppés parce que nous lisions que cette robe de lumière était un symbole des vêtements spirituels de leur céleste innocence. Et c'est intéressant parce que dans la Bible, les choses qui sont symboliques ne sont pas pour autant ne sont pas pour autant inexistantes. C'est ça, des fois que parfois nous n'arrivons pas à cerner. C'est parce que nous sommes peut-être tentés de penser que parce que les choses sont un symbole, elles n'ont pas de réalité. Toutefois, tel n'est pas le cas, parce que la Bible nous présente maints exemples de choses qui sont et qui ont été des réalités et qui pourtant servaient de symboles. Vous comprenez? À savoir que leur robe d'innocence était réelle, était tangible en ce qu'on la voyait, et si tangible qu'on ne pouvait pas voir leur nudité en conséquence. Et donc, vous voyez ici un lien extrêmement étroit entre l'apparence de nos premiers parents et leur condition morale. Et lorsque leur condition morale changea, leur apparence en fut directement, comment dire, transformée. Et comment est-ce que Dieu vint remédier à cette condition dans laquelle nos premiers parents se sont trouvés après le péché? Eh bien, nous sommes toujours dans le chapitre 3 de Genèse ici. Vous voyez que après que Dieu ait prévenu, ou plutôt avant que Dieu prévienne la femme et l'homme de toutes les choses qui leur arriveraient, vous voyez que tout d'abord, Dieu au verset 14 maudit le serpent. Ensuite, il s'adressa à Satan et dit, verset 15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci, c'est-à-dire la postérité de la femme, t'écrasera la tête et toi tu la blesseras au talon. Et à la suite de cette promesse de rédemption, si vous pouvez lire à de nombreuses reprises et dans de nombreux endroits dans l'esprit de prophétie, cette citation, cette passage, ce verset 15 cité, et vous pouvez voir comment l'esprit de prophétie mentionne que, en mentionnant ce verset, parle et explique comment nos premiers parents furent éclairés sur le plan de la rédemption. Ce passage-là, il est directement lié au fait que Dieu les a éduqués sur les provisions qu'il avait faites pour sauver le pécheur. Et maintenant, quel fut l'un des reflets, l'un des premiers reflets de cette activité de la justice par la foi chez nos premiers parents? Vous le voyez au verset 21. Verset 21. Nous lisons, et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des robes de peau et les en revêtit. Est-ce que vous arrivez à cerner quelques implications ici? Quel serait le seul moyen par lequel Dieu pourrait désormais les revêtir, je cite, de robes de peau? P-E-A-U. La peau, ça ne pourrait être qu'en tuant un animal. Ils étaient faits, leur robe était faite de peau. Et donc, c'est précisément en instituant les rites de sacrifice d'animaux comme des types du sacrifice de Christ que Dieu a pu les revêtir de nouveau. Parce que, comme on l'a déduit ici, les robes de figuier dont ils s'étaient revêtus ne constituaient pas, même pour Adam et Ève, dans leur sentiment, un vêtement suffisant parce qu'ils se ressentaient encore nus, selon les paroles d'Adam. Et à plus forte raison, ils étaient nus aux yeux de Dieu, et donc Dieu pourvu à les revêtir, mais cette fois-ci pas avec la robe de leur première innocence, cette robe de lumière, mais désormais à travers quelque chose qui avait une valeur symbolique et qui était un rappel direct de ce que la restitution de leur innocence ne pouvait se faire que par le sacrifice. Voyez? Donc, le péché les conduit à être nus, c'est-à-dire la nudité, ce qui les conduit à se faire des ceintures en feuilles de figuier, ce qui conduit Dieu à leur pourvoir des robes de peau par aucun autre moyen si ce n'est le sacrifice d'un animal. Et ça aurait été sans doute, quoique ce ne soit pas marqué, un animal sans tache, pour représenter le sacrifice de Jésus. Et donc vous voyez ici que même dans la Genèse, vous voyez une illustration du principe fondamental du salut par la grâce qui est lié à cette activité de la justice par la foi. Et vous avez un autre exemple de ce principe biblique de la justice par la foi qui est reflété, dans Zacharie chapitre 3 et versets 1 à 5. On va y aller brièvement afin que nous puissions parcourir tout ce qui nous reste. Je vais essayer d'enchaîner. Dans Zacharie chapitre 3, vous lisez ici, Zacharie chapitre 3, versets 1 à 5. Et notez bien ici le langage parce qu'il nous montre sans l'ombre d'un doute le lien absolument étroit entre le symbolisme du vêtement et la réalité de notre condition de péché et l'activité de rédemption. Et comment tout cela est lié au sujet que nous avions exploré la dernière fois, et comment cela permet de faire un lien étroit et indissociable entre l'apparence de l'homme et sa condition morale. Je lis ici Zacharie chapitre 3, verset 1. Puis l'Éternel me fit voir Joshua, le grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan se tenait à sa droite pour s'opposer à lui. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tison retiré du feu? Excusez-moi, or Joshua était vêtu de vêtements sales et se tenait devant l'ange. Et l'ange prit la parole et dit à ceux qui se tenaient devant lui, ôtez-lui ses vêtements sales. Puis il dit à Joshua, vois, j'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits magnifiques. Et je dis qu'on lui mette sur la terre sur la tête une tiare pure, et ils lui mirent sur la tête une tiare pure et le revêtirent des vêtements en présence de l'Éternel. Et donc, qu'est-ce que l'ange lui a dit? L'ange a dit, ôtez-lui ses vêtements sales. Puis il a dit à Joshua, vois, quoi? Vois, voyez ces termes interchangeables qui nous montrent les synonymes que Dieu établit dans sa parole. Donc, l'ange a dit, ôtez-lui ses vêtements sales. Puis il a dit à Joshua, vois, j'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits magnifiques. Donc, Dieu est ici en train d'assimiler les vêtements sales à l'iniquité. Et donc, les vêtements sales, au même titre, d'ailleurs, que les feuilles de figuier, sont représentatifs du péché et de l'iniquité. Vous le voyez? Et, parce que cela n'est pas tout, les paroles de Jésus dans Apocalypse chapitre 3, verset 18, nous font également comprendre que la nudité de l'homme est associée à la perte de son innocence. Hein, qu'est-ce que c'est? Je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Si vous reliez toutes ces choses l'une à l'autre comme une chaîne ininterrompue, vous arrivez à faire sens et à comprendre que la nudité est associée à la perte de son innocence, l'innocence de l'homme, c'est-à-dire. Et donc, par conséquent, nous voyons que, si vous avez bien suivi le raisonnement ici, que nous tirons de la parole de Dieu, nous voyons que l'activité par Dieu de revêtir l'homme convenablement, Dieu ne revêt pas simplement l'homme de n'importe quoi, parce que sinon, si Dieu se satisfaisait de n'importe quel vêtement ou de n'importe quelle quantité de vêtements, devrait-on dire, eh bien, il se serait déjà satisfait des vêtements dont Adam et Ève s'étaient vêtus. Vous comprenez? Mais de toute évidence, les vêtements dont Adam et Ève s'étaient revêtus n'étaient pas suffisants pour diverses raisons. Mais la raison première, c'est qu'ils ne représentaient pas l'œuvre de salut. Et donc, nous voyons que l'activité par Dieu de revêtir l'homme convenablement renferme la signification de la restitution par Christ de cette innocence. Et d'ailleurs, ce symbolisme, on le retrouve aussi dans la parabole de l'enfant prodigue. Qu'est-ce que c'est? Lorsque l'enfant prodigue revint à son père après avoir dilapidé toutes les ressources de son héritage, vous le voyez dans Luc chapitre 15, je lis brièvement, hein. Luc chapitre 15, verset 18, il disait, lorsqu'il était encore parmi les cochons, il disait, je me lèverai et je m'en irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Donc on voit bien, c'est la condition du pécheur ici, le pécheur qui veut revenir à Dieu. Verset 19, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Ça, c'est ce qu'il pensait. Ensuite, il y alla, verset 20, il partit donc et vint vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion, et courant à lui, il se jeta à son cou et le baisa, et son fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et l'en revêtez, et mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. et amenez le veau gras et le tuez, mangeons et réjouissons-nous parce que mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. » Et donc vous avez ici l'illustration de la réjouissance qui existe dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, si on reprend le langage de Jésus qu'il emploie autre part. Et que fait le Père qui est le représentant ici dans cette parabole du Père céleste envers le pécheur? Eh bien, lorsque le pécheur vient à lui repentant, le Père a compassion de lui, il court vers son enfant, et quelles que soient les expressions de repentance de l'enfant, et ses requêtes presque d'être traité comme un serviteur, qu'il n'a d'ailleurs pas ici le temps de dire, le Père, que fait-il pour le pécheur que l'enfant prodigue symbolise? Il lui apporte la plus belle robe, il le revêt donc de ces mêmes habits magnifiques de Zacharie chapitre 3. Donc, ceci est encore une fois représentatif de Dieu qui ôte le péché du pécheur, son iniquité pour reprendre le langage, et qui le revêt d'habits magnifiques, c'est-à-dire de sa justice, qui lui impute sa justice tout d'abord. Et l'activité de la justice par la foi n'a pas vraiment le temps d'être explorée dans cette parabole, mais le fait est que la justice par la foi implique non seulement une couverture, mais également une activité pratique où cette robe devient maintenant, comment dire, une partie intégrale de qui nous sommes. Mais bon, la parabole ne peut pas vraiment l'illustrer cela. Toutefois, elle suffit pour nous montrer le parallèle et le lien étroit et indissociable entre l'apparence de l'homme et sa condition morale. Et c'est toujours la même chose qui est employée. Un vêtement magnifique, des vêtements sales ou des vêtements en lambeaux. À savoir, les vêtements sales représentent la souillure de nos propres justices, comme c'est marqué, je crois, dans Ésaïe. Je crois que nous avions lu cela la dernière fois. Et les vêtements en lambeaux représente le fait que nos justices ne sont pas égales à la justice de Dieu. La justice de Dieu couvre toute notre nudité, elle annule, pour ainsi dire, notre innocence. Vous voyez, parce que la nudité est synonyme de la perte de l'innocence. Vous le voyez dans la fuite de nos premiers parents. Lorsqu'ils péchèrent, ils perdèrent cette lumière et désormais ils étaient nus. Mais pour combler cette nudité, ils ont mis des feuilles de figuier. Toutefois, ce n'était pas suffisant. Ça atténuait leur sentiment de honte. De la même manière que nos propres justices atténuent notre sentiment de séparation d'avec Dieu, de honte, d'indignité. Toutefois, lorsque Dieu vient à nous en réponse à notre repentance, qui est elle-même le fruit de l'Esprit qui agit en nous, eh bien, lui, il dit, « Ah, tu as essayé, ce n'est pas suffisant, maintenant on va faire la vraie chose. Je vais te revêtir de quelque chose qui va tout couvrir. » Et lorsqu'on parle de ça, je veux que vous voyez ici, il s'agit de quelque chose profondément spirituel. C'est-à-dire que dans la pensée de Dieu, ces choses sont inséparables. Simplement, c'est possible pour nous de parler d'une chose et de l'autre comme des choses chacune d'un côté, c'est-à-dire comme dans une boîte. Ici, c'est la justice par la foi. Ici, c'est la réforme vestimentaire. Alors que ces choses, il n'y a pas de séparation. C'est pas possible de les séparer. Si on les sépare, c'est simplement parce que nous sommes ignorants sur le principe inséparable de la justice par la foi et de l'apparence de l'homme. Et si nous pouvions, comme j'essaie d'ailleurs de le faire ici par la grâce de Dieu, contempler le sujet comme Dieu le pense, comme Dieu le voit, comme Dieu l'entend, eh bien nous arriverions à le méditer, d'ailleurs c'est toujours mon désir, à le méditer d'une manière que ça soit, nous n'ayons pas l'impression d'avoir parlé que de vêtements, mais que nous ayons l'impression d'avoir presque pas parlé de vêtements, tout en ayant toutefois parlé de la nécessité, comme on va le faire, de faire attention à notre apparence, parce qu'elle a une influence sur qui nous sommes. Et qui nous sommes a une influence sur notre apparence. On va le voir. D'ailleurs, c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. D'ailleurs, je vous posais cette question, frères et sœurs. Comment l'esprit de prophétie nous aide-t-il à mieux cerner ce lien étroit entre l'intérieur et l'extérieur de la personne? On veut vraiment voir cette aide que l'esprit de prophétie nous donne pour voir ce lien étroit entre l'extérieur et l'intérieur de la personne. Je le lis ici voyons voir comment ça c'est pour un bon équilibre mental et spirituel, volume 1 à la page 297 et au paragraphe 3, ces deux brèves phrases, cette citation qui nous dit: le vêtement est un reflet de l'esprit et du cœur. Ce que l'on porte sur soi est le signe de ce qui est en soi. Ou littéralement, ce que l'on porte à l'extérieur est le signe de ce qui est à l'intérieur. Vous voyez? Et qu'est-ce que c'était au début? Le vêtement est un reflet, ou littéralement en anglais, un indice de l'esprit et du cœur. Et donc, qu'est-ce que le vêtement? Est-ce uniquement une chose qui est absolument dissociée de qui nous sommes? Pas selon le témoignage de Jésus. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas, quoi que nous puissions vouloir ou être tentés de le faire, dissocier notre vêtement de qui nous sommes. À savoir, selon l'esprit de prophétie, notre vêtement est un reflet de notre esprit, c'est-à-dire la manière dont nous raisonnons, et de notre cœur, c'est-à-dire où sont nos affections. Nous voulons explorer cela, frères et sœurs, dans nos derniers instants de méditation. Parce que, vous voyez ici, lorsque la question du vêtement est soulevée, lorsque l'on parle de vêtements, il arrive parfois, ou même d'ailleurs souvent, qu'on entende les personnes dire en substance « Dieu connaît mon cœur. Dieu connaît, il connaît mes intentions. » Alors, oui, c'est absolument vrai. Mais la question que j'aimerais poser, c'est qu'en sait-il? À savoir, que sait-il de votre cœur, de notre cœur? Et que sait-il de nos intentions? Eh bien, la réponse qui est certaine, c'est que oui, Dieu sait que, quelles que puissent être nos bonnes intentions, notre choix vestimentaire demeure, dans une mesure ou dans une autre, un reflet de notre esprit et de notre cœur. À savoir, un reflet de qui nous sommes, un reflet de notre essence. À savoir encore, notre vêtement reflète la mesure dans laquelle nous avons reçu et dans laquelle nous recevons la justice de Christ. Parce que, frères et sœurs, quel est le but de la robe de la justice de Christ? Hein? Est-ce uniquement de couvrir nos iniquités? Beaucoup comprennent ainsi la robe de la justice de Christ. Ils pensent que la justice de Christ est là pour couvrir nos iniquités, nous donner un drap pour également pourvoir à nos péchés futurs. Vous me direz, mais non, c'est ainsi que beaucoup de chrétiens comprennent le sujet de la justice de Christ, de la justice par la foi, de la justification, quel que soit le mot que vous voulez employer. Mais si nous prenons en compte les choses que nous avions méditées la dernière fois, tout particulièrement à la lumière, premièrement, de ce passage de 1 Jean chapitre 2 verset 9, eh bien, au regard de la parole, le but de cette robe de la justice de Christ, hein, que j'ai ce vêtement blanc que Jésus nous invite à acheter de lui, eh bien, c'est à la fois de nous pardonner nos péchés et de nous purifier de toute iniquité. Et nous avons vu que le parallèle est fait dans Zacharie chapitre 3 entre les vêtements sales et l'iniquité. Et donc lorsque l'ange promet à Joshua de lui ôter ses vêtements sales, il dit, voici, j'ôte, j'enlève ton iniquité. Et lorsqu'il dit j'enlève ton iniquité, il n'est pas en train de dire je suis en train d'enlever ton iniquité à 80%, à 50%, 75%, 95%. Hein, nous avons besoin de prendre les choses de Dieu au sérieux. Ou sinon, sinon nous ne représentons pas la réelle valeur de ce que nous croyons, de ce que nous lisons, de ce que nous enseignons. C'est comme si nous enseignions une chose grande comme l'univers et ensuite nous venons et ça, c'est tout rabougri. Ça perd tout son sens, c'est-à-dire progressivement, au fur et à mesure que nous arrivons au regard des personnes, tout ce que nous avons dit, ça perd tout son sens. C'est comme si la glace est en train de fondre. Elle est merveilleuse quand vous la prenez au vendeur et après, il n'y a plus rien. C'est ça la justice par la foi, mes frères et sœurs. Parce que, donc le but de la justice de Christ, c'est nous pardonner nos péchés, nous purifier de toute iniquité et comme nous l'avons vu, comme notre nullité est assimilée à notre honte, la question c'est, s'ensuit-il par conséquent que dans notre cheminement, dans l'activité de la justice par la foi, nous allons aussi apprendre à nous revêtir différemment, c'est-à-dire progressivement, de plus en plus, à l'image de la robe parfaite de Christ. Hein? Est-ce que dans notre cheminement, dans la justification et la sanctification, c'est ce cheminement-là implique une progression également dans le reflet de cette justice dans notre vie? À savoir, le reflet de cette justice dans notre vêtement. Dans notre vie, ce qui implique à la fois nos paroles, nos pensées, nos paroles, nos actes, nos habitudes et notre vêtement. C'est-à-dire, ne sortez pas le vêtement. Prenez en compte toutes ces choses-là. Parce que si on parle juste de vêtements et que nous sommes en train d'ignorer les pensées, les paroles, les actes, les habitudes que nous avons d'ailleurs contemplées la dernière fois, alors oui, nous nous fourvoyons. Je l'admets, absolument. Nous pouvons très bien être des sépulcres blanchis. Toutefois, la chose auquel nous sommes beaucoup plus dont nous sommes beaucoup plus témoins ces derniers jours, c'est plus l'autre aspect. Hein? Même parmi les réformateurs aujourd'hui, les réformateurs ne savent même pas quel est le sujet de la réforme vestimentaire. Ils ne comprennent pas. Nous sommes allés en Polynésie récemment. Hein? Ce que nous voyons était déplorable. Déplorable pour des réformateurs prétendus. Nous n'avons pas compris, frères et sœurs. Et nous voulons comprendre ici aujourd'hui par la grâce de Dieu. Nous voulons établir, pas juste dresser des règles, mais établir dans notre conscience et comprendre le lien étroit entre notre esprit, notre cœur et notre vêtement. Le lien étroit entre la justice de Christ en nous et ses divers reflets. Parce que nous avons lu, le vêtement est un reflet de l'esprit et du cœur. Donc, notre cœur est reflété par diverses choses, par nos paroles, nos actes et nos habitudes. Ces choses-là reflètent notre cœur et notre esprit, et le vêtement est une de ces choses qui reflète notre cœur. Et j'aimerais maintenant me diriger vers la porte de la sortie à travers cette citation suivante qui se trouve dans Évangéliser à la page 244 et au paragraphe 1er, où nous apprenons le suivant, ou plutôt on nous inculque ce principe. Je lis. Un des points sur lesquels ceux qui viennent d'embrasser les vérités du message que nous prêchons ont tout particulièrement besoin d'être instruits est le sujet du vêtement. Qu'ils soient complètement informés à ce sujet. Font-ils preuve de vanité dans la manière de se vêtir? nourrissent-ils des pensées orgueilleuses? L'idolâtrie dans le vêtement est une maladie morale. Il faut s'en débarrasser avant d'entrer dans la vie nouvelle. Nombreux sont ceux pour lesquels la soumission aux exigences de l'Évangile impliquera une véritable réforme dans la manière de se vêtir. Je poursuis. On ne devrait pas faire preuve de négligence dans notre façon de nous habiller pour l'amour de Christ, dont nous sommes les témoins. Nous devrions chercher à avoir une présentation aussi correcte que possible. En relation avec le service du tabernacle, Dieu avait pris soin de mentionner chacun des détails se rapportant aux vêtements de ceux qui devaient officier en sa présence, nous montrant ainsi qu'il, Dieu, a une préférence en ce qui concerne le vêtement de ceux qui le servent. Il a une préférence. Les indications qui sont données au sujet des robes d'Aaron sont très précises car ces robes avaient un caractère symbolique. Les vêtements des disciples de Christ devraient aussi avoir le même caractère, c'est-à-dire le même caractère symbolique, à savoir, symbolique de quoi ? Symbolique de la justice de Christ. Nous devons être en toute chose ses représentants. Les représentants de qui ? De Christ. Les disciples de Christ doivent être les représentants de Christ et leurs vêtements doivent avoir le caractère symbolique et donc symboliser le caractère de Christ. Sa justice, la propreté, la décence et la pureté devraient nous caractériser dans le domaine du vêtement. Je poursuis. Les enseignements de l'Écriture se rapportant aux vêtements devraient être soigneusement étudiés. Ce que nous sommes ici en train de faire. Hein, vous voyez que les enseignements de l'Écriture sont assez larges. Et les enseignements de l'Écriture au sujet du vêtement, comme on vient de le voir, c'est le lien entre notre nature spirituelle et notre apparence. Hein, le lien entre notre condition morale et les reflets de celle-ci. Hein? On a vu tout ça. Toutes ces choses que nous avons vues constituent les enseignements de l'Écriture au sujet du vêtement que nous devrions soigneusement étudier. Nous avons besoin de comprendre ce que le Seigneur du ciel apprécie, hein, même en ce qui concerne la manière de nous vêtir. On le voit. On a vu sa préférence. Ce qu'il apprécie dans Genèse chapitre 3 verset 21, n'est-ce pas ? Il les a habillés de robes de peau. Vous voyez en cela sa préférence. Vous voyez ce qu'il apprécie. Pas simplement ce qu'il apprécie, mais ce qu'il a ordonné comme devant être le modèle pour correctement représenter la justice de Christ, la justice parfaite de Christ. Ça continue. Tous ceux qui d'un cœur sincère soupirent après la grâce de Christ prêteront attention aux précieuses paroles d'instruction divine. Et là, il dit, même le style du vêtement peut exprimer la vérité de l'Évangile. À savoir que le mauvais style de vêtement va tout autant pouvoir, et certainement va le faire, à savoir, contredire la vérité de l'Évangile. Est-ce possible? Eh bien oui. Notre vêtement, selon son style, peut soit exprimer la vérité de l'Évangile, soit rendre un contre-témoignage à ce que nous cherchons à promulguer et promouvoir et enseigner et proclamer et représenter. Hein? Et ensuite, elle dit quelque chose qui peut-être pourrait nous sembler détaché, mais en réalité qui est lié. Tous ceux qui étudient la vie de Christ et mettent en pratique ses enseignements deviendront semblables à lui. Leur influence sera semblable à la sienne. La droiture de leur caractère sera révélée dans leur vie tout entière. Et tandis qu'ils marchent dans l'humble sentier de l'obéissance, se conformant à la volonté de Dieu, ils exerceront sur leurs semblables une influence qui parlera en faveur de la cause de Dieu et de la pureté bienfaisante de son œuvre. C'est par le moyen de ces âmes entièrement converties que le monde doit recevoir le témoignage de la puissance sanctifiante de la vérité sur le caractère humain. Et ce, même dans le domaine du vêtement. D'ailleurs, j'allais même dire, même et tout particulièrement dans le domaine du vêtement, parce que le vêtement, selon son style et selon la mesure dans laquelle il couvre notre nudité, pourra soit exprimer, soit contredire les vérités de l'évangile que nous voulons proclamer et dont nous voulons être les représentants, et tout particulièrement de l'évangile éternel, du message du premier ange et de tout ce message des trois anges. Vous comprenez? C'est-à-dire que, en ayant toutes les bonnes intentions du monde, si toutefois nous ne faisons pas les bons choix de vêtements d'une manière à représenter pleinement la totale justice de Christ qui est destinée à couvrir totalement notre unité et ainsi à nous ôter symboliquement toute notre iniquité, si nous ne faisons pas cela, malgré toutes nos bonnes intentions, notre vêtement va contribuer à dégoûter les gens qui auraient pu être intéressés par les choses que nous cherchons à leur présenter et vers lesquelles nous cherchons à les amener afin qu'ils soient eux-mêmes sauvés en ces derniers jours. Vous voyez? Donc, ce n'est absolument pas anodin. Ça peut se si nous comprenons mal ce sujet que je viens de présenter, ça peut se transformer en un joug de servitude. Nous cherchons désormais à être sauvés par les œuvres de la loi, quoique nous ayons été sauvés par et justifiés par la foi. Ça peut, mais tout l'objectif de cette méditation est précisément que ça ne soit pas le cas, mais que nous gardions vraiment en ligne de mire tout le but et toute l'origine de notre méditation. Et pour terminer ici, frères et sœurs, j'aimerais juste attirer votre attention, donc que parce que juste avant, on lisait au tout départ de la citation « L'idolâtrie dans le vêtement est une maladie morale. Hein? » On a lu cela. « L'idolâtrie dans le vêtement est une maladie morale. » Mais alors, en quoi consiste cette idolâtrie? Hein, vous savez que c'est possible parfois d'être idolâtre et d'être ignorant sur notre idolâtrie. C'est possible, mes frères et sœurs. En quoi consiste cette idolâtrie? Eh bien, en ce que nous prenons plaisir dans ce que Dieu déteste et dans ce qu'il cherche à remédier. Voilà une différente définition qu'on peut donner à l'idolâtrie. Hein? Parce que l'idolâtrie, nous ne sommes pas forcément... D'ailleurs, rarement, nous sommes idolâtres tout en étant conscients d'être idolâtres. Si vous étiez idolâtre, vous êtes conscient. Alors... vous pouvez être endurci, c'est possible. Il y a des personnes qui savent qu'ils sont idolâtres et qui continuent à faire preuve d'idolâtrie. Mais si nous sommes parmi vous et moi des personnes qui avons envie de faire la volonté de Dieu, eh bien si nous sommes idolâtres, eh bien c'est probablement parce que nous n'en sommes pas conscients. Et donc la parole de Dieu est ici destinée à nous donner, à nous éduquer sur la nature de l'idolâtrie. Et il existe une idolâtrie dans le vêtement, et l'esprit de prophétie nous apprend qu'il s'agit d'une maladie morale. Mais si c'est le vêtement, donc c'est pas un problème. On pourrait se dire, non mais c'est le vêtement, donc c'est juste un choix de vêtement, donc en fait il n'y a pas de problème. Mais non, parce que c'est une maladie morale. Morale, ça veut dire dans la tête. Si c'est une maladie dans la tête, ça veut dire que nous avons besoin d'un remède dans la tête. Et donc si nous voulons remédier à l'idolâtrie dans le vêtement qui, semble-t-il, n'est qu'un problème externe, en réalité le problème que nous cherchons à remédier, il est là-dedans. Parce que nous avons lu que le vêtement est un reflet, nous avons lu, de l'esprit et du cœur. Et si notre vêtement manifeste l'idolâtrie, à savoir que nous prenons plaisir à ce que Dieu déteste, eh bien, le problème est non pas uniquement dans l'extérieur, mais dans le cœur, dans notre esprit, dans notre compréhension et peut-être notre absence de réception de toute la justice de Dieu. Nous avons peut-être une conception de la justice de Christ, mais nous n'avons pas tout compris. Parce que si nous comprenons, alors nous verrons que notre problème extérieur, il relève d'un problème intérieur profond et que pour cela, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Vous voyez que quand nous abordons le sujet du vêtement proprement, nous allons comprendre qu'en réalité, c'est beaucoup plus que simplement les apparences. Ça va beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que l'évangile est destiné à pas simplement changer les apparences en disant « Toi, tu arrêtes de t'habiller comme ça, tu t'habilles comme ça. » Ça va rien changer parce que c'est comme si vous coupiez les feuilles d'un arbre et ensuite ça va repousser. On le sait très bien. Si vous voulez couper les feuilles d'un arbre et vous voulez plus que cet arbre pousse, mais si vous n'avez pas arraché les racines, cet arbre il va repousser, 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 repousser chaque fois, chaque année, plusieurs fois dans l'année même. Et donc, le problème est à l'intérieur. Et nous avons lu également que les vêtements des disciples de Christ devraient avoir le même caractère symbolique que celle d'Aaron, à savoir, nos vêtements devraient refléter la justice de Christ par laquelle toute notre iniquité et notre nullité est ôtée et toute notre justice et toute sa justice nous est imputée et transmise. C'est un bref récapitulatif. Je vais juste lire cette citation. Pour conclure, nous sommes vers la fin, qui se trouve là, dans ce passage de cette revue qui s'intitule « The Health Reformer », c'est-à-dire « Le réformateur de la santé », du 1er mai 1872, paragraphe 18. Voilà une chose très intéressante que je vous invite à écouter attentivement, où Sir White parle dans cette revue de la réforme sur la santé, elle parle du vêtement et elle parle de la question de la décence. Écoutez bien. Elle dit « Nous ne pouvons pas, j'ajoute le témoignage de Jésus, déclare, nous ne pouvons pas, même si nous le voulons, dissimuler le fait que les femmes ont des pieds, des bras et des jambes qui sont faits pour être utilisés. Hein? On ne peut pas le dissimuler, ce n'est pas le but. Mais en ce qui concerne leur exposition, il s'agit là d'un autre aspect de la question. Elle continue plus loin. Ces choses courantes de voir, rappelez-vous, elle parle en son temps. Et j'aimerais que nous réfléchissions à l'application de ce principe dont elle fait mention ici à notre époque. Réfléchissez, c'était pour son époque au 19e siècle, vers la fin du 19e siècle. Et réfléchissez à ce principe tel qu'il est toujours applicable aujourd'hui, toutefois, maintenant que nous vivons autour de différentes modes. À l'époque, c'était la mode des robes très longues qui traînaient au sol. Hein? Aujourd'hui, c'est la mode des jupes courtes où, parmi de très nombreux chrétiens et y compris de très nombreux adventistes, c'est la mode des jupons qui arrivent en dessous des genoux. Vous savez de quoi je parle. Elle dit ceci. C'est chose courante de voir les femmes relever leur robe à 40 cm du sol, exposant ainsi une cheville presque nue à la vue des hommes. Mais nul ne semble embarrassé par cette exhibition indécente. Il n'est aucun esprit sensible et modeste qui semble scandalisé, pour la simple raison que c'est d'usage. C'est la mode et pour cette raison, on le tolère. On n'entend aucun tollé contre l'indécence, bien que ce soit le cas au sens le plus complet. Qu'est-ce qu'elle disait? Qu'est-ce qui était un cas d'indécence au sens le plus complet? Lorsqu'une femme devait relever sa robe à 40 cm du sol, exposant ainsi, je cite, « une cheville presque nue à la vue des hommes ». Et maintenant, réfléchissez à ce qu'elle dit après et voyez comment ce même principe est applicable à la lettre aujourd'hui même, quelques 150 ans plus tard. Que dit-elle? Il n'est aucun esprit sensible et modeste qui semble scandalisé par cette vue-là. Pourquoi? Pour la simple raison que c'est d'usage. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est d'usage? Ça veut dire que on a l'habitude. C'est ce que les gens ont l'habitude de faire. C'est la coutume. C'est une normalité. C'est d'usage. C'est normal pour le monde. Mais l'esprit de prophétie, il dit, nous dit et nous apprend ici, nous fait comprendre que c'est pas normal pour Dieu. Et donc, par conséquent, ça ne devrait pas être normal pour le chrétien. Elle dit, donc, il n'y a aucun esprit qui semble scandalisé pour la simple raison que c'est d'usage, c'est la mode, et pour cette raison, on le tolère. C'est toléré, pourquoi? Parce que c'est la mode, c'est d'usage, tout le monde le fait, et donc, on le tolère. On n'entend aucun toller contre l'indécence, c'est-à-dire personne ne se dit « c'est indécent », c'est ça qu'elle veut dire. On n'entend personne dire ça, bien que ce soit le cas au sens le plus complet. Dites-moi, frères et sœurs, est-ce le cas au sens le plus complet? Est-ce ce genre d'exhibition indécente est-elle monnaie courante aujourd'hui même? À combien plus forte raison ces paroles que je viens de lire sont applicables aujourd'hui? Et plus encore, combien ces choses sont vraies, même parmi des prétendus réformateurs adventistes du septième jour, qui sont censés être des enfants de ceux qui sont sortis de l'Église adventiste du septième jour lors de la Première Guerre mondiale et qui étaient attachés à toutes les choses que la conférence générale et beaucoup de ses pasteurs étaient progressivement en train d'abandonner. Ces personnes qui étaient attachées à la réforme de la santé et ce qui inclut la réforme vestimentaire. J'aimerais conclure par les paroles de Philippiens chapitre 3, versets 17 à 21. Et diriger nos pensées vers le Seigneur à la suite de cette méditation quelque peu intense sur la question des reflets de la justice par la foi. Dans Philippiens chapitre 3 verset 17, nous lisons, l'apôtre Paul disait sous l'esprit d'inspiration, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et regardez à ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. Car plusieurs, je vous l'ai dit souvent, et maintenant je vous le redis en pleurant, se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Comment? Leur fin sera la perdition, leur Dieu, c'est leur ventre, leur gloire est dans leur infamie, et leurs affections sont aux choses de la terre. Pour nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le cœur de notre humiliation pour le rendre conforme au corps de sa gloire, selon le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » L'apôtre Paul ici nous parle, en quelques mots, de personnes dont leur Dieu c'est leur ventre, et dont leur gloire est dans leur infamie, ou un autre mot, comme c'est en anglais, leur gloire est dans leur honte. Et donc, frères et sœurs, la question qui se pose, c'est, avons-nous en nos cœurs la maladie morale de l'idolâtrie du vêtement, ou autrement dit, notre gloire, plaçons-nous notre gloire dans notre honte, à savoir, sommes-nous à l'aise avec ce que la Bible définit comme notre honte, à savoir notre nudité? Nous voulons être, ou voir du moins, le sens tant bien de notre nudité dans au regard de la question de l'indécence et de la pleine justice qui couvre totalement notre corps et notre iniquité, cette robe parfaite de Christ. Parce que nous voyons ici que ceux dont la gloire est dans leur honte ont les affections aux choses de la terre. C'est ainsi que le langage est utilisé par l'apôtre Paul ici. Mais il dit, verset 20, en contraste, pour nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui opérera cette transformation, etc., dans notre corps. Mais cela montre que si nous sommes vraiment attachés, hein, parce qu'en anglais c'est « a conversation is in heaven », nous sommes citoyens des cieux, c'est-à-dire nos affections sont aux choses célestes. Hein, c'est un peu une des manières dont vous pourriez également traduire ce verset 20. Et donc, avoir nos affections aux choses célestes, c'est arriver à également avoir dans nos cœurs, c'est cela, et chercher ensuite à le traduire par une apparence qui est en pleine harmonie avec ce principe de la justice par la foi. Voilà, je prie que vraiment le Seigneur puisse abondamment nous encourager à travers cette méditation, non pas nous décourager, mais nous encourager à nous mettre en parfaite harmonie avec ces enseignements de l'Écriture, pas simplement sur le vêtement, mais sur, j'aime le voir ainsi, tous les reflets de cette justice par la foi qui est au centre même de cette activité du salut par la grâce de Dieu. Puisse le Seigneur vraiment conduire nos réflexions, nous encourager par diverses autres réflexions qui sont adjacentes et connectées, afin que vraiment nous puissions apprendre à refléter de tous les moyens possibles nos paroles, nos pensées, nos actes, nos habitudes, le caractère de Jésus, et cela inclut très certainement notre choix de vêtements, parce qu'il aura un impact sur ce que nous disons, sur selon que les choses que nous disons ont une réelle crédibilité, non seulement pour nous, mais pour nos proches, nos membres de famille, nos amis, nos connaissances, et très certainement toutes ces âmes nombreuses, ou du moins relativement nombreuses, comparées à l'absence aujourd'hui de personnes intéressées, pour lesquelles nous serons appelés à être une aide. Nous voulons avoir toute la crédibilité possible qui nous est possible d'avoir, d'une part en étant en pleine harmonie avec le caractère de Christ, et d'autre part en portant ce qui va exprimer dans toute sa plénitude les vérités de l'Évangile à travers notre vie et notre apparence. Et puissions-nous vraiment apprendre, puisse le Seigneur guérir nos esprits malades et nous aider à voir la lumière dans le tunnel. C'est ma prière, que Dieu vous bénisse, puisse Dieu réellement nous accompagner en cette nouvelle semaine. À très bientôt. Amen.